Karine, bonjour et désolé pour le bruit parasite, mais on a trouvé la raison. Toute simple, voilà la chose rectifiée. Dernier jour en Lozère, qui nous réserve encore des surprises comme cette aventure portée depuis 2012 par le Conseil municipal des jeunes de Mende et un collectif de musiciens locaux sous le nom de 48 de cœur. L'idée était de rassembler des talents de tous les horizons et de les embarquer dans la création de spectacles très originaux. Et ils sont, sans jeu de mots, très spectaculaires. Et ce, au profit des Restos du cœur du département. 100 000 euros de fonds ont été récoltés depuis le début de l'aventure, qui est devenue une affaire artistique très sérieuse, qui prend la forme d'une sorte de comédie musicale très professionnelle. Le rendez-vous a choisi le titre très simple de « C'est chaud » et sa saison 8 est en cours de constitution avec l'appui de 160 bénévoles pour deux représentations au théâtre de Mende, 9 et 10 mars prochains devant plus de 3000 spectateurs. 48decoeur.com, il y a aussi une page Facebook, les liens s'affichent à nos pages d'émission. Le grand show est synonyme de musique mais aussi de lumière. Et je connais une autre source de lumière au cœur du parc national des Cévennes, le ciel. Ce parc a le privilège d'être labellisé réserve internationale de ciel étoilé, la plus grande d'Europe. Anne Logis, directrice du parc, va répondre à nos questions après avoir répondu à celle de Laurent Gibowski dans les pages numériques de La Vie, un article à lire. Et puis nous rejoindrons Thierry Coulon, meunier du seul ou d'un des rares moulins à vent en fonction en France pour la création d'une filière locale de farine, le Moulin de la Borie.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Anne Legille, bonjour.
Bonjour monsieur.
Anne, vous dirigez le parc national des Cévennes, qui a été labellisé parc national en quelle année, rappelez-nous ?
1970, nous avons bientôt 50 ans.
Et vous tenez le coup.
Oui, oui, 50 ans, c'est un bel âge.
Ça veut dire que ce que vous avez pu avancer en préservation, en activité nouvelle, d'une biodiversité et d'une situation géographique très très particulière, est entré dans les mœurs.
Alors, c'est vrai que ce n'est jamais simple d'installer un parc national dans un territoire, notamment en France, puisque nous sommes un territoire largement habité. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on peut facilement tracer des limites dans des territoires vides de population. Le territoire des Cévennes est un territoire habité. On a pu à certains moments avoir certaines oppositions à l'installation du parc parce que les habitants pouvaient craindre des contraintes. Mais l'idée du parc a été portée par des habitants de ce territoire. Oui, nous pensons que nous avons, dans ce territoire du parc national des Cévennes, fait progresser l'idée d'un développement durable, c'est-à-dire d'un développement qui soit compatible avec la protection de notre environnement.
Alors, belle illustration, c'est le label RIS, Réserve Internationale de Ciel Étoilé, que vous avez obtenu en août dernier. Vous êtes la 13e RIS au monde. Alors, la RIS, c'est vraiment une grande réserve. Et vous, c'est cette réserve est la plus grande d'Europe ?
Nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce label prestigieux. Donc, nous sommes la 2e réserve internationale de ciel étoilé en France, après celle du Pic du Midi, oui, qui a été labellisée en 2013. Et nous sommes effectivement la plus grande d'Europe, puisque le territoire de la RIS correspond au territoire du parc national des Cévennes, soit 3000 km².
C'est tout bénéfice pour les communes concernées, à savoir, elles limitent les dépenses énergétiques et en particulier de l'éclairage public.
Ça, c'est vraiment un très beau projet, puisque c'est un projet qui illustre parfaitement notre politique que j'exposais précédemment, c'est-à-dire à la fois préserver la biodiversité, puisque la lumière est une source de dérangement important pour tous les êtres vivants, en modernisant l'éclairage public, qui représente souvent 40 à 50% des factures d'électricité des communes. Nous aidons donc ces territoires à préserver leur budget et leur consommation énergétique.
Vous voyez déjà des frémissements, un intérêt pour un écotourisme qui va se développer sur cette base de réserve internationale de ciel étoilé ?
Ah oui, vraiment, il y a un engouement très fort. La labellisation du territoire le 13 août dernier a eu des répercussions très importantes. On travaille avec énormément de prestataires touristiques qui développent ce que l'on appelle une offre de tourisme expérientielle. les touristes qui se rendent sur notre territoire ont envie de vivre des expériences. Et le parc des Cévennes leur offre la possibilité d'observer les étoiles et la Voie lactée à l'œil nu, sans télescope, sans appareillage compliqué, sans monter à des altitudes, aller à de très hautes altitudes. Et ça, c'est une expérience inoubliable, car énormément de Français aujourd'hui ne peuvent plus observer les étoiles et la Voie lactée parce que leur environnement est trop pollué par la lumière artificielle.
Ça implique aussi des animations, des formations pour les élus, pour les professionnels du tourisme, ça c'est en cours, et même l'ouverture d'une école d'astronomie.
Oui, effectivement, c'est un projet d'une association qui se trouve sur Alès, l'étoile Cévenole, et qui a envie de sensibiliser fortement les jeunes et les moins jeunes à la préservation du ciel et de l'environnement nocturne.
Vous avez réussi à convaincre facilement les élus ?
Effectivement, c'est assez facile sur ce sujet, puisque il y a des conséquences financières directes. Et derrière, ce sont des économies donc sur le budget des communes. Et comme sur notre territoire, nous avons des petites communes, toutes les économies sont évidemment bonnes à prendre. Et c'est de l'argent qui peut être redistribué sur d'autres activités. Donc, nous avons 24 communes, pour le moment, qui ont décidé de moderniser leur éclairage public. Et ce sont 2400 points lumineux qui vont être rénovés.
Bravo. En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle contre la pollution lumineuse au profit de la biodiversité, d'un écotourisme, d'une redécouverte du ciel enfin étoilé avec cette réserve internationale au parc national des Cévennes. Vous allez trouver les liens avec le parc à nos pages d'émission. Merci Anne.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Pas facile de résumer 45 ans d'histoire d'une ferme familiale, celle de Marie et Armand. En 73, ce couple reprend cette ferme appartenant à la famille de Marie pour en faire le premier éco-musée privé de France. Aujourd'hui, ce sont les enfants et petits-enfants qui gèrent ce lieu avec une fromagerie, la fromagerie du hameau de Yelzas, le Fédou, grâce à un réseau de bergers producteurs de lait. C'est sous l'impulsion d'ailleurs de producteurs qu'un programme baptisé des Brebiers des Hommes a vu le jour afin d'offrir des sentiers découvertes depuis cette ferme qu'on appelle la ferme Cosnard d'autrefois. On traverse les bergeries, on rencontre les bergers, on déguste les fromages, on profite de l'environnement. Desbrebiersdeshommes.fr pour le programme. Et c'est pas un hasard si le parc national des Cévennes prête une oreille attentive à ce programme. Ce n'est pas un hasard si d'autres thèmes d'itinérance sont engagés, comme celui des céréales sous la mise en marche du moulin à vent de la Borie depuis sa restauration en 2017. Son meunier s'appelle Thierry Coulon. Thierry, bonjour.
Bonjour.
Meunier, vous êtes meunier du moulin de la Borie sur la commune d'Ure, la Parade. Un moulin à vent, c'est rare.
Ouais, c'est assez rare. Enfin, il y en a beaucoup en France, mais qui produisent, il y en a très peu.
Ouais.
Très peu.
Vous êtes arrivé d'une certaine manière après la bataille. La bataille, c'était de restaurer ce moulin qui a cessé de fonctionner pendant un siècle et demi.
C'est ça, ouais. Donc un moulin qui date de 1660 et qui a dû s'arrêter vers 1895. Et un habitant du Cosméjean a souhaité, quand il était petit, il s'était promis en tout cas de faire quelque chose pour ce moulin. Et en 2012, il en a parlé autour de lui. Bon, au début, c'était juste un projet patrimonial. Et très vite, il y a un agriculteur et un boulanger qui se sont mêlés aux conversations pour dire qu'on pourrait aller plus loin. Et voilà, le moulin en fait est parti comme ça, le projet est parti comme ça.
Ouais. Ce qui est surprenant, c'est d'abord évidemment là, les amoureux du cause qui étaient à l'origine de ça, comme vous l'écrivez dans votre courrier, et puis aussi des éleveurs de brebis.
Ouais. Faut savoir que auparavant le Cosméjean, donc où se situe le moulin, était le grenier à blé de la Lozère.
Ah oui.
Bon, et puis après ça a évolué bien sûr, et puis les agriculteurs jusqu'à pas longtemps cultivaient des céréales, mais uniquement pour nourrir les brebis. Quand ils ont entendu ce projet, pour eux, je pense qu'ils sont ils sont en soutien pour le moulin, c'est quelque chose qui leur plaît, et donc ils allouent quelques terres chacun pour cultiver des céréales pour le moulin avant.
Comment devient-on meunier, Thierry ? Il y a une école ?
Ouais, il y a une école à Surgères, à côté de La Rochelle.
Ouais.
Mais depuis une dizaine d'années, puisqu'auparavant elle était à Paris, cette école. Mais moi, j'ai pas du tout suivi ce cursus-là, en fait.
Vous avez suivi lequel ?
pour tout vous dire, j'ai une formation de cuisinier et quand j'ai commencé à travailler, ben, j'ai voulu pratiquer un sport, le rugby. Pour pratiquer ce sport, ben, c'était pas adapté en fait avec les horaires de cuisine. Donc il y a un moulin qui était à côté de chez moi, je suis rentré dedans. Et puis voilà, je suis tombé sur un patron qui m'a formé, qui m'a envoyé en Suisse pour me former. Très vite, j'ai pris des responsabilités jusqu'à devenir chef meunier.
Et donc, vous avez plaqué le rugby.
Ouais, enfin, c'est plutôt lui qui m'a plaqué parce qu'il arrive un âge où on ne peut plus.
Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Et ce qui est quand même aussi amusant et sympa, c'est que votre compagne Caroline est ingénieure en agroalimentaire et elle a suivi une formation pour faire le pain hein, sur la base de la farine que vous produisez.
Pour tout vous dire aussi, aujourd'hui, elle fait des études de naturopathe.
Ah oui.
Voilà, c'est carrément un projet de vie, un changement de vie qu'on a souhaité faire. Mmh.
Est-ce que ça a poussé les agriculteurs locaux à revenir à des variétés anciennes de céréales ?
Ah oui, carrément, carrément. Pour commencer cette filière, en tout cas, ils ont contacté l'INRA pour avoir des semences. Donc, ils en donnent 50 grammes, je crois. Et puis après, on multiplie jusqu'à avoir assez pour faire un champ et récolter suffisamment pour le moulin. Mais aujourd'hui, on est sur le Côte-Méjean, donc on est à 1000 mètres à peu près d'altitude.
Oui.
Donc bien sûr, toutes les variétés ne poussent pas ou mal. Cette année, en tout cas, je dispose de 3 variétés anciennes en quantité suffisante pour moutre au moulin. On a du barbu du Roussillon, du rouge de Bordeaux et du rouge de Lozère que je vais sûrement mettre en mouture en début d'année.
Ah oui, c'est vraiment très précis, c'est vraiment des variétés très locales. Hein. Vous alimentez des boulangers, il y a déjà 8 boulangers qui achètent votre farine.
Ouais, alors aujourd'hui on est à 12 boulangers.
Ah bah maintenant oui, ça augmente, d'accord.
Oui, ça augmente.
Ouais.
Et... 12 boulangers, des revendeurs de sachets, et puis ce qui est assez particulier à nos aires, beaucoup de consommateurs locaux qui font eux-mêmes leur pain, leur pâtisserie, chose que je ne voyais pas là où j'étais avant, et c'est vrai qu'ici les gens utilisent beaucoup de farine.
Ça veut dire quoi pour vous, Thierry, cet intérêt des particuliers, des professionnels? C'est vraiment, on est dans un mouvement de retour à des valeurs sûres, authentiques, de qualité?
C'est ça. Je pense que petit à petit, je me rends compte. Et alors, ce qui me surprend le plus, c'est que dans tous les boulangers avec qui je travaille aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes, en fait, et qui souhaitent vraiment revenir à un produit plutôt authentique, où on rajoute rien, on fait du pain. Bon, c'est sûr que ça demande quand même... C'est assez particulier, quoi. Il faut une attention particulière, en tout cas, pour travailler ce produit. Mmh. Dès qu'on l'a apprivoisé, on fait quand même des choses très bonnes, quoi. Très bonnes et jolies.
Et comme nous
sommes, apprécie.
Bien sûr. Et comme nous sommes sur le Causse-Méjean, la farine s'appelle la Méjanette. Et le site, c'est moulindelaborie, BORIE.com. Merci Thierry Coulon.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
Comme vous nous le demandez régulièrement, je prends le temps de vous ouvrir la feuille de route des prochaines destinations. La semaine prochaine, nous serons dans le Pas-de-Calais, puis le Nord, chez le voisin. Ensuite, nous serons dans l'Yonne, début février, dans la Nièvre, le Cher, la Manche et l'Orne pour conclure le mois de février. On tient compte évidemment de vos courriers. Merci à vous. Merci à Anne Lioro qui réalisait les carnets, à Joël Levert qui leur donnait du contenu, aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume comme aujourd'hui, Juliette Delperroux.